Vertigo, de 16h30 à 18h, sur la première. Bonjour les cow-boys.
Bonjour.
Bonjour.
Claude Dusset, photographe, Quentin Mouron, écrivain, vous publiez Lost aux éditions Favre. C'est un gros et beau livre de photographie, photographie en noir et blanc, agrémenté de ci de là de petits textes que vous signez, Quentin Mouron. Alors on va se plonger ensemble dans cet ouest américain et ouvrir le livre. D'abord, de quelle partie des États-Unis on parle exactement, Claude Dusset?
C'est vaste, mais plutôt de la côte ouest, effectivement. Il y a un peu de Californie, d'Arizona, d'Utah et de Nevada dans cet opus-là.
Autrement dit, des paysages assez contrasté
et surtout, moi ce qui m'a étonné en arrivant là-bas, je connaissais un peu la côte est avec New York et la Floride, mais là-bas il y a une espèce de... On arrive dans un monde cinématographique et on arrive dans un monde qui nous est totalement connu, quelque part. Mais tout à coup, cette immensité et cette perdition qu'on peut avoir quand on arrive dans cet endroit-là, moi, ça m'a un peu envoûté. Il y a même des choses, d'ailleurs, qui sont infotographiables, tellement c'est un ressenti physique même, non seulement visuel de ce qui se passe là-bas. Je me suis perdu dans cet endroit et je me suis amusé à aller chercher des choses un peu, à raconter cet ouest-là selon ma vision à moi. Je réinvente pas la roue, hein. C'est vrai que des livres sur les États-Unis et sur la côte ouest des États-Unis, il y en a eu plein mais l'idée c'était d'aller dire, je ressens des choses et je vais essayer de traduire ça avec le médium que je pratique, donc la photographie, et voilà ce que ça a donné à l'arrivée. Au départ, c'était un peu ça. Enfin, c'était même des photos de vacances au départ de ce projet. Après, l'envie, c'était de se dire, ça serait bien de montrer ce travail-là d'une manière ou d'une autre. Et puis aussi un besoin pour moi de sortir du monde des artistes et de la scène qui devient de plus en plus compliqué à photographier puisque tout le monde veut être devant les scènes à faire des photos et que les restrictions deviennent de plus en plus compliquées.
Oui, parce que ça, c'est votre autre vie de photographe, Claude Dusset, où vous photographiez énormément d'artistes en scène. On y reviendra si vous le voulez bien. C'est très juste ce que vous dites, et on le ressent dans le livre, à la fois le côté très cinématographique de ces images. Et étrangement, même si on n'y a jamais posé un orteil, on a l'impression qu'on connaît déjà ça. C'est aussi une sensation que vous pourriez avoir quand un mourant, quand bien même c'est une partie du monde que vous connaissez mieux que Claude Dusset pour y avoir vécu.
Oui, il faut pas oublier que tous ces états, on disait qu'ils sont quelque peu disparates, contrastés, mais ils sont reliés d'une part par la route 66, qui les traverse, ou qui les touche, ou qui les frôle, en tout cas, hein, pour la plupart d'entre eux, et qui est quand même ce lieu mythique, chargé d'histoire, chargé de rêves, quand bien même d'ailleurs on ne l'a jamais emprunté, quand bien même on ne fait pas de photos de moto, pardon, même si on ne fait pas tout ça, on est imprégné de ces images de la route 66 qui traversent ces états, et d'ailleurs toutes les routes qui ressemblent à cette route 66, hein, qui sont ces petites routes qui serpentent dans la montagne, même ces grandes autoroutes parfois qui traversent, où on retrouve les mêmes enseignes à chaque fois. Et là, au fond, il y a cette idée quand même aux États-Unis de, et en Europe aussi maintenant d'ailleurs, par la série en quelque sorte, on est chez nous un tout petit peu partout, et on est dans des lieux familiers. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui, moi aussi, m'a marqué parce que quand on est aux États-Unis, on a affaire à la fois à l'étrange, on oublie qu'il y a quand même un océan entre deux, on oublie que les références culturelles ne sont pas tout à fait les mêmes, même si on
parle... On n'est clairement pas des cow-boys, nous, les Européens.
Non, on n'est pas des cow-boys, on comprend pas tellement certaines fascinations, que ce soit pour les armes, pour le jeu, etc. Et en même temps, on est dans des décors qu'on a l'impression d'avoir déjà foulés, comme l'a dit Claude. On a l'impression que même si on est là en vacances, même si on est là quelques semaines, on a l'impression qu'on est dans un espèce de chez-nous étrange. On a l'impression, comme si on entrait chez soi le soir, et puis que tout était devenu bizarre. C'est presque un texte de Beckett, hein. Le fait de débarquer aux États-Unis, c'est le fait d'entrer tout à coup dans un lieu chargé de familiarité, chargé d'étrangeté à la fois.
Et comme si on avait besoin, nous aussi, les uns les autres, de faire ce voyage. Il y a le côté mythique de cet ouest américain, et puis le côté un peu quête initiatique. Alors moi, je ne l'ai jamais fait, hein, cette route 66, à bord d'une Ford Mustang, cheveux au vent. Je devrais ?
Moi, je l'ai fait. Je l'ai fait, c'était très bien. Je l'ai fait. Alors, ce n'était pas une Ford Mustang, mais j'avais acheté une décapotable blanche quand j'avais 20 ans, que j'avais acheté trois fois rien.
Il faut faire ça une fois dans sa vie.
Mais oui, c'est pas mal de le faire. Hein. C'est pas mal, il faut le faire pendant qu'il y a encore du pétrole. Donc, il faut quand même le faire assez vite. Mais c'est quelque chose, oui, qui à mon avis doit être fait. Mais après, bien sûr, ça dépend des références qu'on a. Moi, j'étais aussi passionné par la littérature américaine quand je l'ai fait. Ça, bien sûr que ça aide, même si les auteurs ne se trouvent pas sur la route 66. Donc, il n'y a pas que Kerouac. Hein, j'aime bien des auteurs antérieurs comme Faulkner, comme Fitzgerald. Mais c'est, même si on les associe à d'autres parties des États-Unis, on se retrouve quand même dans cette espèce d'Amérique puissante, dans cette Amérique aussi désolé, parce que c'est ça qu'on, Claude et moi, avons aussi essayé de retranscrire. C'est que c'est pas seulement une Amérique de vacances, une Amérique parfaite, une Amérique
du rêve,
c'est aussi l'Amérique du cauchemar et c'est l'Amérique des fantômes. Et je pense que moi, c'est ça qui me fascine surtout, c'est le moment où une réalité peut-être un peu tapageuse se transforme en fantôme, se transforme en ombre, disparaît dans la poussière. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui sur la route 66, même s'il y a encore beaucoup de gens qui l'empruntent, même si c'est encore un axe touristique, on a l'impression quand même que quand on tourne la tête à gauche, à droite, on a l'impression de traverser un champ de ruines.
C'est vrai, c'est assez désolé et aride. Je dirais pas glauque et sordide, hein, parce qu'il y a aussi de la lumière dans ces images. Mais enfin, c'est quand même un peu l'envers du décor du rêve américain.
C'est le rêve américain qui n'est plus qu'au stade de rêve, finalement. Il y a un peu de ça. Mais je trouve que, effectivement, quand on se balade aux États-Unis et qu'on sort des grands axes, des côtes, soit à l'est ou soit à l'ouest, on arrive dans une Amérique qui est... On a l'impression qu'elle est à vendre partout. Les États-Unis sont à vendre. Partout où vous vous baladez, il y a des hôtels, il y a des stations-service, il y a des motels. Tout est à vendre, en fait.
For sale, voilà. Avec des panneaux.
Et ce qui est assez fou, c'est que, contrairement à ce qu'on vit ici, là-bas, on sent que tout à coup, il y a des gens qui sont arrivés sur une terre, qui ont été à la recherche, à l'époque de la ruée vers l'or, certainement de minéraux précieux. Et puis tout à coup, ça s'est fabriqué, ça a existé. Et tout à coup, ils sont partis parce qu'il n'y a plus rien à faire là. Et... par rapport à ici, là-bas, les choses, elles restent là. On va pas tout remettre à plat en disant, voilà, il y a un terrain à vendre. Non, tout reste là. Donc, tout est subit l'assaut du temps, subit l'assaut des squatteurs, des taggeurs. Et ça reste quand même un endroit où l'humain a mis ses pieds, a mis sa vie. Il y a plutôt ça que je cherchais. Ça raconte la vie, ces ruines. Voilà, on voit ça et on se dit, ben voilà, l'humain est venu ici, a fait des choses, est parti, on voit des traces de sa présence. Mais
et pourtant, il y a fort peu d'humains hein, dans vos photographies, Claude Dussay.
Il n'y en a pratiquement pas. Non, non. Mais en même temps, après, il n'y a pas que des ruines dans ce projet. Il y a aussi l'aspect de solitude et de perdition passe aussi par des gens que j'ai croisés et j'ai photographiés. Il y a quelques personnes qui ont été photographiées, mais que j'imaginais aussi perdues dans leur monde, perdues dans leur pensée. Le mot perdu est plus vaste que juste des ruines et juste des moments où plus rien n'existe. Ouais, finalement, ça raconte pas que la ruine, ça raconte aussi la vie quelque part.
Et moi, quand j'entends le mot ruine, justement, je m'émeus tout de suite parce que bon, je suis un lecteur et une grande partie de la littérature s'est faite par rapport et avec les ruines, hein, que ce soit déjà les auteurs de la Renaissance. Je vais pas faire le pédant, hein, mais surtout les auteurs romantiques, justement, qui se baladent dans les ruines, la mèche au vent, la larme à l'œil. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Seulement, on redécouvre des ruines qui ne sont pas les ruines sublimes de la Rome impériale ou de la Grèce des philosophes, mais qui sont les ruines de Ronald McDonald, les ruines de Coca-Cola, les ruines d'idoles qui sont sans doute moins incroyables, qui portent peut-être moins aux rêveries et aux grands mouvements métaphysiques, mais qui amène justement à une position face aux ruines. Et je pense que, en tout cas, je pense que l'artiste, plus que l'écrivain seulement, l'artiste s'est toujours positionné face aux ruines. A toujours aimé se balader dans les ruines, pour toutes sortes de raisons d'ailleurs qui sont peut-être un peu malsaines, peut-être un peu morbides, mais c'est une grande part de notre histoire de l'art, tout médium confondu, se passe dans les ruines.
Ce sont des coins à projection, des coins à fantasmes pour les artistes, pour vous, Claude Dussay, le photographe, et pour vous, Quentin Mouron, l'écrivain. Ce sont des lieux dans lesquels on peut vraiment laisser aller son imagination, peut-être grâce aux ruines, justement. Ça laisse de la place.
Oui, il y a de la place, il y a de l'espace déjà aussi. Et moi, j'ai adoré le désert parce qu'on y pense bien. Je trouve qu'on y réfléchit bien, on s'y projette bien, on y rêve bien. Dans des zones plus confinées, comme c'est le cas parfois en Suisse, il faut lutter pour pouvoir avoir une pensée vaste. Tandis que quand on est dans le désert, moi je trouve que ça va tout seul. En quelque sorte, on est porté par les images, par les fantasmes. Et oui, moi j'ai beaucoup aimé écrire aux États-Unis. J'y suis parfois retourné par la pensée, par les images que j'y avais prises, avec beaucoup moins de talent que Claude Dussay naturellement, mais qui sont mes petites photos d'Instagrammeur personnel. Et ça, c'est quelque chose, oui, qui m'a beaucoup inspiré, qui a quand même marqué aussi mon œuvre à maintes égards, et qui, aujourd'hui encore, je trouve, touche, et je pense touche tous ceux qui ont une sensibilité artistique et qui y sont allés. J'ai rarement connu d'artistes, peu importe leur position personnelle sur la politique américaine, sur la société de consommation, sur tout ce qu'on veut, et qui sont parfois aussi les miennes, peu importe, j'ai jamais rencontré quelqu'un doué d'une sensibilité qui ne soit pas revenu bouleversé des États-Unis et de la côte ouest.
Il faudrait d'ailleurs qu'on reparle, Quentin Mouron, dans cette émission consacrée à ce livre de photographie Lost, de votre premier roman qui a été, qui se déroule aux États-Unis et qui a été écrit, sauf erreur, aux États-Unis, et de cet amour des grands espaces, puisque vous avez partiellement grandi au Québec.
Oui.
Et que vous avez entrepris un voyage tout seul, important, après votre bac à 20 ans.
Absolument.
Aux États-Unis. Je reviens à vous, Claude Ducey. Vous citez à la fin de votre livre quelques personnalités qui vous ont inspiré le voyage avant même d'y être allé. C'est dire aussi que la machine à rêve, elle commence peut-être bien avant de mettre un pied sur sol américain. Vous citez par exemple le peintre Jean-Michel Basquiat, des photographes comme vous, Robert Frank, Annie Leibovitz, Lucky Luke. Le fameux cow-boy, sur lequel il y aurait pas mal de choses à dire.
Ouais, hein, mais c'est effectivement que l'imaginaire de ces lieux-là commence certainement par là, en tout cas pour moi. J'ai des souvenirs.
Lucky Luke, c'est l'enfance.
Voilà, c'est l'enfance. Et en même temps, je crois que Maurice n'y a jamais mis les pieds. Donc il a dessiné des choses, je ne sais pas de quelle manière, mais en tout cas, quand on y est là-bas, on ressent quelque chose de Lucky Luke là-bas, c'est sûr.
Qu'est-ce qui vous inspire, Lucky Luke, à tous les deux?
Je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Mais ça fait longtemps que, disons, que j'ai
C'est qu'on a perdu contact un petit peu ces derniers temps. Mais il raconte cette espèce de...
Il y a la liberté, il y a la solitude, il y a le côté « je fais ce que je veux
». Aujourd'hui, je pense qu'il va poterait.
Il va poterait, ouais. Il a déjà passé de la clope à la brindille. Donc ça, c'était déjà terrible. Mais ça raconte d'une manière... En tout cas, ces espaces si vastes et si... Ils nous laissent une place à l'imaginaire et à l'histoire, à raconter des histoires. C'est quand même assez fou quand on arrive là-bas. Cette sensation, elle est indescriptible, elle est difficile à raconter, mais je trouve que une espèce de... Vous voyez, c'est un peu ça.
On respire.
Et on prend, nos sens sont en éveil d'une manière inhabituelle. Ici, on est un peu coincé autour de notre pays et ramené à... C'est comme si ici, on achète la même marque que les... Ici, on achète la même marque, les autoroutes, que les Américains. Mais seulement, comme on a un pays qui est beaucoup plus petit et qu'ici, ils livrent ça au kilomètre, on est obligé de faire beaucoup de contours.
Vous
voyez ? Alors que là-bas, c'est des lignes droites sur des miles. Et ça, c'est assez chouette, ça.
Et ça a vraiment une incidence sur l'esprit.
Oui. Oui, alors il y a toujours une petite partie de sorcellerie dans ce genre de théorie, c'est pour ça que j'y vais prudemment, mais bien sûr, à mon sens, oui, peut-être parce qu'on sort simplement du cadre habituel, mais même en y ayant vécu, en ayant recomposé mes habitudes aux États-Unis, je trouve qu'il y a un moment, quand on écoute aussi, après toute la question musicale aussi, quand on écoute Coltrane dans ses longues envolées de jazz, qu'on est sur une route déserte, on pense peut-être plus largement. On est peut-être moins confiné, en tout cas dans la création artistique, à la petite œuvre. On pense déjà en grande épopée, on pense homérique, même si on le fait pas après, peu importe. Il n'y a pas besoin de tout réaliser, on peut aussi avoir des fantasmes pour soi. Mais je trouve souvent, et c'est un reproche d'ailleurs que j'adresse parfois, pas à tout le monde, mais à un certain nombre d'artistes et d'écrivains suisses romans ou d'écrivains français, on a l'impression que... Ils vivent pas dans les grands espaces, qui vivent beaucoup autour de leur nombril, un petit peu sous les testicules, un petit peu le haut du ventre, mais.
Une fois de plus, vous allez pas vous faire des amis quand un mourant, hein.
Ah, j'ai dit certains, attention, j'ai pas dit tout le monde, je mets quelques précautions oratoires, mais.
Devenez un peu suisse.
On a l'impression qu'on va pas, voilà, on n'est pas en train de se déplacer dans les grands espaces de la pensée. Alors, j'ai l'air un peu nietzschéen, comme ça, un peu original en disant ça, mais moi, c'est ce qu'il me faut quand même dans une œuvre. C'est une volonté de... Une volonté de souffle, une volonté de totalité, une volonté d'exprimer quelque chose. Et Claude Ducey, quand il vient me voir en me parlant, alors il me parle comme il a fait là, très modeste, c'est des photos de vacances, mais c'est des photos qui expriment un morceau de territoire entier, de pays entier. C'est des centaines de kilomètres qui sont couverts, c'est des espaces extrêmement différents. Il y a une volonté de totalité, il y a une volonté de souffle, il y a une volonté d'épopée. Et moi, ça c'est quand même quelque chose qui me plaît.
Ce sont des photos puissantes et des photos qui racontent des histoires, en effet, vos photos. Photographie, Claude Ducey. On va continuer d'en parler tous les trois à propos de ce livre qui s'appelle Lost et que vous publiez chez Pierre Massel-Favre, juste après avoir écouté un musicien que vous aimez beaucoup, Claude Ducey, c'est Frank Zappa.
Rockin' Robin. Hot Rod's Lips. Hey, what's new in Baltimore? What's new in Baltimore?
C'était What's New in Baltimore de Frank Zappa pour évoquer ce rêve américain dont on parle tous les trois, bon, tous les deux. Vous en parlez, Quentin Mouron, écrivain, et vous, Claude Ducey, photographe. Comment vous avez collaboré tous les deux pour fabriquer ce beau et gros livre, tout en noir et blanc, avec... Il y a combien de photos là-dedans, Claude Ducey? Une bonne centaine?
Non, même plus, 150.
Même plus, hein, 150 photos. Comment vous avez collaboré tous les deux? Parce que, on le reprécise, ce sont des photographies en noir et blanc et des textes, de ci, de là, de courts textes. C'est quoi, Quentin Mouron, des haïkus, des poèmes?
Alors, c'est un long poème, au fond, qui, avec des rappels. Alors, c'est vrai que c'est pas forcément évident, parce qu'on a l'impression que c'est en effet plusieurs petits poèmes qui parlent de la même chose, mais c'est vrai que je l'ai pensé comme un seul texte, comme un seul long poème qui traverse le livre et qui entre en résonance avec les photos, qui ne les textualise pas, j'imagine qu'on dit comme ça, ou qui n'accompagne pas les photos, mais qui entre en résonance avec elles. Et ça, je pense que c'est une nuance qui doit quand même être apportée.
Mais vous partiez des photos de Claude Ducey à chaque
fois?
Oui,
alors je vais raconter quand même l'histoire.
Mais racontez-nous l'histoire.
Oui, non, moi je prends contact avec Quentin.
Vous connaissiez tous les deux?
On s'est rencontrés pour le projet que j'ai mené sur des artistes suisses qui s'appelle Artiste. Et j'ai été le photographier pendant qu'il était en train d'œuvrer derrière son ordinateur à écrire.
C'était La Combustion Humaine.
La Combustion Humaine.
J'ai commencé à faire semblant d'écrire parce que.
Troisième
roman. Et j'ai commencé à faire semblant d'écrire parce que je me suis dit, bon, avec un photographe dans la chambre, ça va pas être facile. J'avais une gueule de bois extraordinaire ce jour-là. Et je me suis dit, bon, finalement, Claude s'est effacé tranquillement. Il a fait ça avec beaucoup de distinction. Moi, j'ai l'habitude de photographes qui. On a l'impression qu'ils sont vraiment sur vos genoux. Là, pas du tout. Et puis finalement, j'ai écrit de bonnes pages de ce roman en présence de Claude. Et puis après, on s'est revus quelques fois. Et puis là.
Mais c'est vrai que pour ce projet, moi, quand j'ai commencé à mettre à plat un peu ces photographies et que j'avais envie de mettre du texte là autour, comme disait Quentin tout à l'heure, j'avais pas envie qu'ils viennent souligner, surligner ces photos avec un texte. J'avais pas envie que ces photographies illustrent son texte. Mm-hmm. Ça a été mélangé de manière un peu plus étonnante. Moi, j'aime bien son côté un peu définitif et un peu pointu comme ça. Il racontait avant que les grands espaces lui font pas peur. Effectivement, il a vécu là-bas. Il connaît ses endroits et c'était ça que j'avais envie d'avoir comme écriture. Donc très vite, je lui ai présenté des photographies, une espèce de sélection d'une série de photos en disant voilà, j'ai un projet, j'ai envie de monter quelque chose là autour, est-ce que tu auras envie d'écrire des textes? Et très vite, il a plongé son regard là-dedans, il a dit ah ouais, et il me semble que deux semaines après, je reçois un texte déjà, voilà, est-ce que c'est un peu ça, tu sens un truc un peu comme ça ou pas, voilà.
Et je pouvais la forme était définie, à savoir que ce soit de petits textes qui arrivent par-ci par-là.
Alors,
ce
n'était pas prédéfini. Claude m'a suggéré d'écrire un texte. J'ai choisi cette forme-là parce que je trouvais que c'était la plus à même d'entrer en résonance avec les photos, plus qu'un texte suivi avec des personnages. Mais donc après, ça, je crois que ça convenait bien finalement, mais c'était quelque chose qui n'était pas du tout prédéfini. Ce qui est amusant, c'est quand Claude m'écrit. Alors, c'était un moment assez immense, hein, parce que je venais. De me séparer. J'étais retourné chez mes parents, j'étais cloîtré dans ma chambre où il faisait extrêmement chaud. J'avais plus de copines, plus d'appartements, même plus de chats, c'est dire. Et là, je reçois
encore
un mail de Claude
quand même,
qui dit
comme aujourd'hui.
Alors même pas, je voulais pas inquiéter mes parents, alors j'avais du thé et j'étais dans ma chambre à traîner dans un état indescriptible et Claude m'écrit et me dit bah écoute, ça serait si t'as l'occasion, tu dois être occupé ces temps. Je dis ouais, c'est vrai que je suis occupé là, je vais peut-être finir de mettre mon caleçon d'ici midi, mais c'est pas non plus ça me prend pas non plus toute la tête quoi. Donc on s'est bien retrouvé dans le calendrier parce que c'était juste le moment où il fallait que je refasse quelque chose de ma vie. Là, je vois une porte de sortie qui m'est offerte par Claude où il arrive avec des super photos, avec un super projet. Je me dis tiens, on pense encore à moi, ça change. Et je me dis bah tiens, je vais faire quelque chose là. C'est l'occasion rêvée. J'ai le temps parce que j'étais en train d'écrire mon mémoire quand même. J'essayais, mais en fait c'était.
Oui, parce que vous êtes étudiant en lettres.
J'ai terminé.
Vous avez terminé.
Ouais, j'ai terminé il y a un an. Je l'ai défendu il y a un an avec succès. Mais enfin, le mémoire était quand même bien avancé, donc je faisais plus grand chose quand il m'a écrit. Vesoul, donc mon précédent livre était déjà à peu près envoyé à l'éditeur. majeur. Donc là, ça a été l'occasion de se
Vesoul,
remettre à...
le 7 janvier 2015, hein, qui est votre sixième roman, Quentin Morand,
exactement.
Juste pour préciser.
Oui, absolument.
Et là, et ça vous a pour été, dire que la proposition de Claude vous a stimulé.
Ça tombait bien parce que tout à coup, c'est vrai que je me suis tout de suite retrouvé dans ces photos. J'ai retrouvé des souvenirs de mon épopée américaine. J'ai retrouvé tout ce qu'il me fallait. Et puis j'ai commencé à écrire. Et pour moi, c'est la première fois que je publie de la poésie. Donc c'est aussi quelque chose d'assez émouvant.
Cette forme très courte, c'est une première ?
Oui, j'ai fait du cours en prose, mais la poésie, c'est quelque chose que j'avais jamais. Je ne veux pas dire que j'avais jamais touché, mais que j'avais jamais publié. J'ai les tiroirs pleins de poèmes, mais jamais destinés à la publication.
Et vous, Claude Ducey, photographe, pourquoi avoir choisi de passer un coup de fil à Quentin Morand et pas à un autre écrivain, une autre écrivaine, pour parler de ce coin de pays, alors que Quentin Morand connaît bien ?
Ben, je savais qu'il le connaissait bien, ce coin de pays, déjà. Mais j'aimais bien ce côté définitif. Moi, quand je l'ai rencontré et que j'avais lu ses premiers romans, je trouvais qu'il avait une manière d'écrire. Il pourrait écrire des paroles de chansons, ce Quentin. Je sais pas si on lui a déjà demandé, mais je trouve qu'il a un vrai sens du rythme et il a un vrai sens de la chute et de la chose un peu définitive perçante comme ça. Et je trouvais, j'avais besoin de ça. Je trouvais que c'était intéressant. J'avais pas envie qu'on associe quelque chose de trop littéraire, mais dans le sens où on part dans des espèces d'explications ou de tunnels ou de voilà. Le truc définitif était intéressant. Ça veut dire que ça reste un livre de photographie, mais avec une espèce de fil rouge là qui se déploie sur toute la longueur des 224 pages, quelque chose comme ça. Et très vite, il m'a envoyé ces textes qui étaient en plus de ça, chaque fois mis en page d'une autre manière et que j'ai gardé dans la mise en page du livre. En fait, il y a des choses, c'est des énumérations et tout à coup, il y a un texte un peu plus développé sur 4-5 lignes. Et l'idée, c'était aussi de garder cette forme-là et d'en faire quelque chose graphiquement aussi dans le livre, quoi.
Oui, et puis d'avoir quelque chose d'assez puissant, parce que ce qui fait la faiblesse d'un livre d'art, souvent d'un beau livre, c'est les textes, hein, il faut le dire. C'est souvent, c'est pédant, c'est masturbatoire, c'est... il y a beaucoup de beaux livres qui sont foutus en l'air par les textes, par les auteurs avec lesquels les artistes ont eu le malheur de s'associer. On se perd en glose, on dérive complètement, on est dans un truc complètement égocentrique où l'œuvre passe au second plan derrière la parlotte. Et là, je crois qu'on a réussi à faire quelque chose d'équilibré, ce qui n'empêche pas d'ailleurs qu'il y ait un peu de jeu hein, dedans, mais je crois qu'on a réussi à faire quelque chose qui dialogue. Et ça, c'est rare à mon sens quand il y a une association entre texte et photos, il manque le dialogue. Il y a des gens qui parlent, mais il n'y a pas de dialogue.
Jour comme ça, une page au hasard. Nous avions la passion des carcasses de voitures. Nous avions la passion des barbelés enfoncés dans le sol. Nous avions la passion des pièges. Nous aimions le désert refermé sur le marcheur. Nous aimions baiser dans les cimetières automobiles. Voilà un exemple de ce qu'on peut trouver
définitif,
dans ce titre, dans ce livre. Oui, il y a quelque chose de très définitif. Ouais. Et immédiat, un peu à l'image de ces paysages.
C'est quelque chose qui est voulu, qui est désiré. J'avais pas envie j'ai essayé d'éviter tout ce qui est ornementation gratuite.
Now sur la première, c'est Vertigo jusqu'à 18h. On parle de Lost dans Vertigo. Lost, ça veut dire perdu ou les disparus. C'est le titre du livre de photographie de Claude Dusset sur l'Ouest américain. On y voit des déserts, de la poussière, des paysages abandonnés, des images emblématiques de cette partie des États-Unis. Et puis, il y a des textes drôles et tranchants que vous signez, Quentin Mouron. La sexualité y est bien présente. Est-ce que ce sont les images de Claude Dusset qui vous ont inspiré?
Non, pas directement. C'est peut-être mon côté obsédé, hein, mais non, je crois pas. Je crois que ce qui m'a inspiré pour ce qui est de la sexualité, c'est quand même, au fond, la sexualité permet de donner une présence humaine aussi. Il y a des êtres humains dans les photos de Claude, et puis on est quand même aussi dans ces espèces de déserts. Moi, ce que j'aime bien, c'est que
on
chez Claude,
fantôme,
il y a quelque chose...
peut-être. Pardon de vous couper.
Oui.
Il y a une présence un peu fantomatique.
Un peu fantomatique, exactement. Et moi, j'avais envie d'incarner quand même aussi ces lieux-là, parce qu'on oublie qu'il y a la photo, mais il y a aussi celui qui est en train de prendre cette photo, qui est pas forcément Claude, enfin, qui est un homme ou un être de chair, en quelque sorte, et j'ai envie de rendre aussi hommage à cet être de chair qui est le témoin silencieux et qui est aussi peut-être celui qui a vécu ces lieux-là et qui est un être constitué d'un corps aussi, bien sûr, et ce corps vit et ce corps exulte lors de rapports sexuels. Donc il y a pas, il y a aussi le fait que j'ai choisi de parler de manière relativement subjective par moment des choses et de mêler à cette question de la disparition fantomatique une disparition qui est là plutôt une disparition amoureuse, hein, la fin d'une relation amoureuse. C'était aussi l'ambiance du moment, et je crois que ça se prêtait bien à ces fantômes parce que c'est aussi des choses qu'on, il y a des parallèles à faire entre une rupture amoureuse et le fait de se retrouver dans ces grands espaces. Il y a des fantômes qu'on doit congédier, il y a certaines obsessions qui reviennent, il y a un manque lié à la sexualité, bien sûr, lié à la discussion, lié à des sentiments. Donc ça, c'est quelque chose aussi que j'ai eu envie de faire apparaître dans le texte. C'est une liberté aussi que j'ai prise peut-être par rapport aux images qui ne le suggéraient pas explicitement. Mais je pense que c'est aussi ça qui a fait que dans ce livre, on a pas une illustration de texte, on n'a pas un commentaire de photo, mais on a deux sensibilités qui interagissent et je pense que ça, c'est plutôt une force pour le livre.
Claude Dusset, photographe, est-ce que toutes les situations sur lesquelles vous êtes tombé lors de ce périple dans l'Ouest américain, est-ce que tout est photographiable?
Je dirais que non. Après, c'est aussi une sensibilité de photographe. Ça veut dire que certains photographes arrivent à faire passer des choses que peut-être je n'arriverais pas à faire, et à contrario, j'arrive à faire passer des choses que d'autres n'arriveraient pas à faire. Effectivement, j'ai l'impression que quand je suis devant ces étendues qui sont sans fin et qui sont à perte de vue, j'ai de la peine à photographier ça, parce que je trouve que ça met en éveil encore d'autres sens que ne serait-ce que la vue. Il y a encore, il y a des choses, il y a la chaleur, il y a le tactile, il y a l'ouïe qui rentre en ligne de compte. Donc ça, c'est très difficile pour moi de photographier cette immensité finalement. J'en montre un petit peu, mais ce que je ressens sur place est beaucoup plus fort que ce que la photo peut montrer.
Vous auriez pu vous concentrer sur des visages, sur des postures. Les Américains de ces coins de pays, et pardon si je suis un peu caricaturale, mais ont parfois des gueules et des looks qui sont un peu exotiques, hein, pour nous, lecteurs suisses. C'est pas ce que vous avez souhaité faire?
Non, c'est pas ce que j'ai fait, en fait. J'ai rencontré des gens, j'ai photographié certaines personnes.
Il y en a quelques-uns, mais peu.
Ouais, puis il y en a plein qui ont été photographiés mais qui sont pas dans le livre parce que quand, en commençant à compiler ces photographies et à raconter quelque chose avec ces photographies, l'être humain a finalement disparu dans le choix des photos, parce que tout à coup j'aurais mis de magnifiques portraits de gueules comme vous dites, ça serait tombé un peu à plat parce qu'on s'est dit mais qu'est-ce que ça fout là, quoi. Il y a vraiment un côté où le il y a quelques personnes mais qui en plus de ça on les sent et on les devine plutôt qu'on les voit réellement. Il y a quelque chose d'un peu plus, un regard un peu pudique sur les gens à ce moment-là, je pense. Mais c'est vrai que il y a beaucoup de portraits qui ont été réalisés, mais qui sont pas là à l'arrivée.
Quentin Mouron, votre tout premier roman, écrit à l'âge de 20, 21 ans ou 22 ans, je rappelle que c'était votre sixième roman à peine 30 ans, votre premier roman se déroulait aux États-Unis, vous êtes ensuite essayé au polar, à la satire avec votre dernier et sixième roman. Est-ce que cet Ouest américain continue d'être un coin extrêmement inspirant pour l'écrivain que vous êtes?
Alors moins maintenant, parce que c'est vrai que pour la satire, c'est presque des fois un peu trop facile de se moquer de quelqu'un d'aussi, qui est presque déjà un personnage de satire, qui est Donald Trump. Hein, donc c'est difficile d'ajouter du grotesque au grotesque. Donc au fond, je me suis retiré un tout petit peu du territoire américain pour ce qui est de la création littéraire, à part bien sûr pour Lost, mais pour ce qui est des romans. Même si mon avant-dernier roman, L'âge de l'héroïne, se passait encore aux États-Unis. C'était un retour, même sur la côte ouest, dans le Nevada. Donc c'était quand même... Oui, c'est quelque chose qui a continué de me marquer, de m'inspirer, mais c'est aussi parce que l'avantage d'un décor comme celui des États-Unis, c'est exactement le même avantage qu'il y avait à prendre un décor comme Rome ou comme Athènes dans la tragédie au XVIIe siècle. On le prenait aussi parce que c'était des références qui évoquaient des choses à tout le monde. Il n'y avait pas besoin d'expliciter les choses. Il n'y avait pas besoin de dire qui était qui, parce que toutes les figures, qu'elles soient mythologiques ou historiques, parlaient aux gens. Et aujourd'hui, quand on installe dans le cadre nord-américain et particulièrement sur la côte ouest une intrigue, il n'y a pas besoin d'expliquer 50 fois aux gens de quoi il est question. On est tellement biberonné aux séries, aux films américains que, pour par exemple un polar, on connaît mieux la manière dont fonctionne la justice américaine parfois que la justice de notre propre pays. Et donc, ou même la politique américaine parfois que la politique de notre propre pays. Donc c'est vrai que pour ça c'est intéressant, parce que ça permet de passer sur l'aspect un peu descriptif qui moi m'emmerde un peu, pour entrer dans quelque chose qui est beaucoup plus existentiel, avec des personnages, des situations, des drames entre les personnages. Et donc c'est pour ça que j'ai pris parfois cette option, que je la reprendrai peut-être, et j'y retournerai sans doute une fois. Ça fait longtemps que je suis pas retourné aux États-Unis.
Where the road is dark and the seed is sown, where the gun is cocked as the bullets comb, where the miles are marked in the blood and the gold, I'll meet you farther on up the road. Got on my dead man's suit and my smiling skull ring, my lucky graveyard boots and a song to sing. I got a song to sing. It keeps me out of the cold. And I'll meet you farther on up the road. Further on up the road, further on up the road, where the way is dark and the night is cold. One sunny morning we'll rise, I know, and I'll meet you farther on up the road. Now I've been out in the desert just doing my time, searching through the dust looking for a sign. If there's a light up ahead, well brother, I don't know, but I got this fever burning in my soul. Further on up the road, further on up the road, further on up the road, further on up the road. One sunny morning we'll rise, I know, and I'll meet you further on up the road.
Claude Ducey, il y a une photo que vous auriez envie de retourner prendre vite fait, là, si vous imaginez ce voyage que vous avez fait tout récemment dans cet Ouest américain. Il y a des choses qui manquent dans ce livre.
Ah, il y a d'autres choses qui ont été photographiées, ça c'est sûr. Et l'envie, c'est peut-être de continuer à raconter cette Amérique. Peut-être pas forcément que l'Ouest, mais je trouve qu'il y a des choses à raconter, à continuer à raconter dans ce pays-là, qui vient de ce pays-là. Donc, non, les photos qui ont été réalisées, elles ont été réalisées. Le but, je crois pas que c'est de revenir sur un sujet. Des fois, on en perd le souffle et puis de surprise, en fait. Il faut toujours être surpris quand on fait des photos, que ce soit pour des portraits ou autres. Je trouve que des fois, quand on photographie trop souvent les mêmes personnes, c'est difficile de garder cette espèce de légèreté et de fascination, peut-être pas, mais voyez, cette espèce de premier contact. Tout à coup, on photographie, que ce soit un lieu ou une personne, il faut garder cette espèce de recul. Si on est trop à l'intérieur d'un lieu ou trop constamment face à quelqu'un, ça, on perd, je pense, quelque chose, quoi.
Est-ce que ce voyage continue de vous habiter, Claude Ducey?
Ben oui, j'ai envie d'y retourner, j'ai envie de continuer à documenter ce l'Amérique en général. Puis en même temps, quand je vais photographier cette Amérique-là, je me dis que je pourrais aussi photographier des choses dans notre propre pays qui sont aussi un peu perdues, un peu à l'abandon, un peu, il faut aller les chercher. Je suis sûr qu'il y a des choses aussi intéressantes ici, chez nous, quoi.
Vous avez entrepris ce voyage, sauf erreur, en été, avec votre épouse et vos deux enfants adolescents. Comment eux ont-ils vécu cette région? Est-ce qu'ils ont ressenti le souffle dont on parlait tout à l'heure? L'immensité et tout ce que cela permet de projeter.
Ouais, le souffle et l'agacement d'un père qui s'arrête pour faire des photos chaque 10 miles. Mais non, je pense qu'ils ont découvert quelque chose. En fait, quand on vit... L'expression road trip peut être un peu galvaudée, mais c'est vraiment, on fait vraiment des kilomètres, on bouffe des kilomètres, on se balade dans ces paysages qui sont constamment en changement, qui les couleurs changent chaque 50 miles. Donc forcément qu'on se nourrit par ça, et forcément on peut pas ressortir indemne de ces endroits-là, parce que c'est quand même notre imaginaire les connaît, et tout à coup de les voir en vrai, il y a un moment où on vit dans un rêve, en fait, quand on est sur place. Le décalage horaire accentue aussi un peu la chose, mais c'est vrai qu'on se dit, mais c'est vrai, ou on est dans un monde parallèle? Il y a quelque chose de ça qui est assez fascinant, en tout cas pour un photographe.
Oui, qui laisse comme un sentiment d'étrangeté, un peu celui que l'on ressent à la lecture de ce livre.
Certainement.
Oui, si on a réussi à restituer ce sentiment-là, qui je crois nous a happés tous les deux, mais c'est qu'on a réussi une partie du défi. Et là, c'est vrai que les retours de lecteurs vont quand même dans ce sens-là. Les gens étaient... nous ont dit avoir été touchés, avoir été bouleversés par les images, par l'alchimie entre les images et le texte. Et pour nous, c'est déjà un coup gagnant.
À votre avis, Quentin Mourant, qu'est-ce que ce livre de photographie Lost dit de Claude Ducey?
C'est une excellente question à laquelle je serais assez emprunté de répondre, parce que je veux pas dire qu'il aime les fantômes, ce serait impoli. C'est plutôt, non, je pense que ce que ça dit, c'est au fond à la fois une envie de grandeur, et puis peut-être, moi, ce que ça me dit quand même de particulier, parce que moi je connais un petit peu le travail de Claude Ducey, et c'est vrai que j'étais plutôt sur des, ça m'a fait très bizarre déjà de pas voir de gens,
de visages,
hein. J'avais l'habitude de voir des visages, et moi ça me dit qu'on a affaire à un artiste qui remet en cause aussi ce qu'il fait, et ça c'est ce qui fait l'artiste, et finalement c'est pas d'avoir trouvé un truc, c'est de se remettre en question, et je crois que on a essayé de nouvelles choses tous les deux dans ce livre, on s'est mis en danger aussi, on a fait des choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire, et ça je pense que ça signe quand même l'artiste.
Même question pour vous, Claude Ducey. Qu'est-ce que les petits textes signés de Quentin Mourant racontent de lui?
Il est totalement obsédé par le cul. Ça, c'est sans, je ne sais pas si c'était, on le savait peut-être pas. Non, tout le monde le sait maintenant. Mais non, mais parce qu'il est, mais il est.
Il n'est pas question que de sexualité d'ailleurs, non, hein, dans ces petits textes. Je dis aux auditrices et auditeurs qui n'ont pas le livre sous les yeux.
Non, loin de là. Mais. C'est difficile à expliquer parce que pour moi c'était évident que c'était la personne qui devait écrire des textes autour de ces photos. C'est instinctif, comme ces photos ont été réalisées, ça a été fait. On a très peu intellectualisé la chose finalement. Ça a collé. Alors qu'est-ce que ça raconte de lui? Ça raconte qu'il devait faire les textes de ce livre, quoi. Ça c'est certain.
rien à voir avec votre livre, quoique. Est-ce que pour vous deux, artistes, photographes et écrivains, le jeu est suffisamment présent dans vos vies d'adultes?
Mais moi, je n'ai pas particulièrement besoin qu'il soit présent, le jeu. Oui, le jeu social, hein, le masque qu'on porte, ça c'est certain. Après, moi, je me méfie toujours un peu. Ça arrive surtout vers la trentaine, un peu plus tard. Là, on a un retour au jeu, on a un retour à l'enfance. On doit se mettre en position fœtale, s'entendre naître. Moi, j'ai fini de jouer aux petites voitures. J'ai pas du tout envie d'y rejouer. Je sais que certains aiment jouer encore, de toutes les manières possibles. Moi, ça va. J'ai donné. J'avais des petits soldats. J'en ai plus. Ça me va très bien. Je fais la PC maintenant, donc je préfère la protection civile que l'armée. Mais ça me va très bien.
Et vous, Claude?
Non, je pense que
le jeu, par rapport à la part de jeu dans nos vies.
Ouais, mais justement, un artiste a cette chance-là, ça veut dire de jouer de son art quelque part. Ça veut dire que moi, j'ai très peu joué aux petites bagnoles et aux Lego. Finalement, j'ai pas de gros souvenirs de ça. Mais j'ai l'impression que tout à coup d'avoir développé une envie de réaliser des choses en tant qu'artiste, c'est un grand mot, hein, mais voilà, moi j'ai fait du dessin longtemps, j'ai fait un peu de peinture, je fais de la photo maintenant, tout est un peu lié, mais c'est mon jeu à moi, ça. J'ai l'impression que quand on exerce un art, on a cette chance là, on n'est pas obligé de se rattacher à des jeux, enfin notre jeu c'est ça, quoi.
Dernière question à tous les deux. Après ce livre de photographie, Lost, pour vous, Quentin Mouron, dernier et sixième roman, enfin dernier, pas le dernier, le dernier que vous avez pondu, c'est Vesoul, le 7 janvier 2015. Sur quel projet êtes-vous?
Voilà, je suis sur un roman assez ambitieux, c'est-à-dire assez long, plus long que d'habitude. Alors bon, je dis tout le temps ça, puis après je coupe tellement qu'à la fin on me dit « Oh, mais encore un livre de 100 pages ». Bon, mais en tout cas, ça risque d'être un livre plus long, qui mobilise ce que j'ai appris à faire à Vesoul, en écrivant Vesoul, c'est-à-dire la satire, mais en même temps avec quelque chose, des personnages plus incarnés, plus entiers, qui nous échappent peut-être moins que le Vesoul, qui était délibérément un jeu de reflets aussi, avec des personnages plus plats, avec moins de consistance. Et là, ça va être quelque chose de plus profond, qui est assez difficile à écrire parce que c'est aussi émotionnellement quelque chose d'assez fort. J'en ai encore pour une année, je pense, hein. C'est un chantier qui est un gros chantier, qui est un chantier qui s'est ouvert maintenant depuis août. Je suis encouragé, soutenu par ma compagne qui est ma première lectrice, et donc j'avance plus vite que quand je suis tout seul, mais on verra maintenant ce que ça donne.
Et vous, que tu sais?
Alors moi, je travaille sur un projet sur le Léman avec un autre photographe qui s'appelle Vincent Guignet, et il va y avoir des textes de Blaise Hoffmann. Alors l'idée, c'était de parcourir le Léman, en fait, est plutôt le prétexte d'y faire le tour et d'aller à la rencontre des gens qui y travaillent, qui y vivent, qui prennent du bon temps. Donc voilà, c'est un livre qui va sortir en septembre 2020.
Merci beaucoup à tous les deux.
Merci pour votre invitation.
Écrivain, Claude Ducey, photographe. Je rappelle que vous publiez Lost aux éditions Pierre-Marcel Favre. C'est un beau et gros livre de photographie en noir et blanc avec vos textes, Quentin Mouron, sur cet Ouest américain dans lequel on peut projeter beaucoup de choses. À bientôt, bonne soirée.
Merci.